France Musique.
La colombe est en chemin, elle ne viendra pas pour rien. Allez réveiller le monde, je l'ai vu ce matin.
Enrico Macias, enfant de tout pays, Virginie Bloch l'aînée.
Pour tous les martyrs de la paix, qui sont morts pour nous tous, qui sont morts pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations futures. Président Kennedy, Martin Luther King, le président Sadat, et maintenant, à la mémoire d'Yitzhak Rabin.
Troisième volet, enfant de tout pays.
Alors ça me rappelle quand j'étais instituteur, hein. Alors vous approchez bien les micros, hein.
Enfant de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis.
Bonjour Enrico Macias.
Bonjour.
J'ai donné à ce troisième entretien de la série le nom d'une de vos chansons les plus connues, Enfant de tout pays. Parce qu'il sera question aujourd'hui de votre carrière internationale, qui commence très vite après votre succès en France en 1962. Et même si cela est vrai pour tous les artistes, nous allons voir que les relations internationales exercent dans votre cas une influence particulièrement forte sur votre réception ou sur votre non-réception à l'étranger. En 1963, vous êtes invité à Beyrouth. Est-ce que vous pouvez raconter comment ça s'est passé ?
Ah, je me rappelle bien. C'était la première fois que je quittais la France pour aller dans un pays étranger. Et je vais à Beyrouth, je chante dans un cabaret qui s'appelait l'Epi Club, tenu par quelqu'un qui s'appelait Toros. Il se trouve que ce Toros était le fils d'un grand responsable de la police libanaise. Parce que avant de voyager, il fallait qu'on remplisse un questionnaire. Et il y avait religion. Et moi j'ai mis israélite. Mais lui, quand il a vu ça, il a tout de suite enlevé, je sais pas comment il a fait, mais j'ai pas été inquiété de rien du tout. Mais quand je suis arrivé au Liban, il y avait quelqu'un qui me suivait partout. C'était soi-disant un journaliste, mais à mon avis, après j'ai compris que c'était un responsable de la police. Parce que je demandais où se trouvait la synagogue de Beyrouth, des choses comme ça. Et il me suivait. Bon, je dois vous dire que c'est la première fois que je rencontrais un succès fabuleux à l'étranger. C'était les gens dansaient sur les tables pendant que je chantais. Je me rappelle au Guitar Guitar, c'était leur chanson préférée. Tous les soirs, il y avait une très grande chanteuse libanaise qui s'appelle Férouz, venait me voir alors qu'elle sortait jamais. Elle venait au cabaret avec son mari qui était un grand chef d'orchestre. Il venait me voir et m'invitait même chez eux à la maison. Elle chantait et je l'accompagnais avec le oud. C'était vraiment magnifique. C'était une grande chanteuse.
Beyrouth, ton horizon m'appelle et me sourit.
Beyrouth, ton charme m'ensorcelle, ta beauté me séduit. C'est l'Éden de tous les temps qui m'enchante et qui m'attend. C'est la vieille féerie du Liban. Beyrouth, ton chant plein de douceur s'étire à l'infini. Beyrouth, et monte dans mon cœur en verte symphonie. C'est la chanson du vieux temps que répètent les amants. C'est la lente mélodie du Liban.
J'ai passé un mois fantastique. J'étais bien reçu par tout le monde. L'hospitalité libanaise,
c'est pas un mythe, c'est pas une légende.
C'est pas une légende, ouais. C'est vrai.
Fleuve de lait de miel qui nous descend des cieux.
Et je rentre à Paris. Et là, je reçois une lettre. Cher Enrico Macias, vous avez fait un triomphe à Beyrouth, mais pour continuer de développer vos chansons et votre carrière chez nous, la Ligue du Monde Arabe a compris que vous étiez juif. Mais juste, s'il vous plaît, écrivez une lettre comme quoi vous n'êtes pas juif. Et ça facilitera le développement de votre carrière chez nous. Moi, il ne faut pas me demander des choses pareilles. J'ai écrit en réponse le texte de la chanson « Enfant de tout pays ». Et j'ai répondu que j'étais juif, même pas fier de l'être, pas besoin, mais que il était inadmissible de demander au compositeur et interprète de la chanson Enfant de tout pays une chose pareille. Ça a été comme si j'avais envoyé une bombe. On m'a rendu une autre bombe. Tous les pays arabes ont brûlé mes disques au centre de leur capitale, dans les villes, partout, dans tous les pays arabes. J'étais d'un coup interdit dans tous les pays arabes. C'était avant la guerre des six jours, hein, tout
ouais,
ça. Hein.
67.
C'était avant la guerre des six jours. Alors, automatiquement, bon, moi, je vous dis la vérité, j'étais content de ce que j'avais fait. Tant pis, interdit dans les pays arabes, ben, tant pis pour eux, ou tant pis pour moi. Je reviendrai pas en arrière.
Les Beyrouth, min qalbi salamun les Beyrouth, wa qubalun.
Alors Férouz, je l'ai revu, j'étais la voir à l'Olympia. Je ne sais pas ce qu'elle avait, mais elle ne s'est pas rappelée de moi. Enfin, voilà. Ou alors elle n'a pas voulu se rappeler de moi.
Est-ce qu'à ce moment-là, vous réalisez que vous êtes aussi interdit en Algérie Et vous vous dites, ça va s'arranger.
C'est pour une autre raison. L'Algérie,
C'est à part. D'accord.
L'Algérie, c'est ma terre natale. C'est pas pareil. Je suis, plus ou moins interdit. Il faut dire les mots tels qu'ils sont, oui, c'est vrai.
En 1965, vous allez pour la première fois en Israël.
Oui, exact.
Est-ce qu'il y a eu un moment, lorsque vous avez quitté l'Algérie en 61, vous avez pensé aller vivre en Israël ou il était évident que vous iriez en France ?
Ma vie en France était tellement intense que je ne pensais pas encore. Et puis aussi le fait d'avoir quitté l'Algérie, j'allais pas encore penser à quitter la France pour aller en Israël ou ailleurs. C'était loin de moi. Mais par contre, lorsque j'ai été en Israël, j'ai été très très heureux d'être là-bas, d'avoir ce contact avec le pays de mes ancêtres, pays de mon cœur, quoi. C'est le pays de mon cœur, Israël.
Vous avez été partout dans le pays. Qu'est-ce que vous avez fait
partout,
lors de ce
partout,
premier voyage?
J'ai chanté partout. Et il y avait un correspondant du Monde basé en Israël qui s'appelait Shemama. On était ensemble. Et moi, j'avais eu un problème avec la plus belle salle symphonique ça s'appelle Man Auditorium. Et en hébreu, Echal HaTarbut. C'est toujours la plus belle salle de Tel Aviv, d'Israël. Et jusqu'à présent, quand je me produis en Israël, je vais là-bas. Et la première fois qu'on m'a proposé de chanter là-bas, le directeur de la salle n'a pas voulu. Parce qu'il pensait que mon public, c'était des barbares. Comme je suis pas ashkénaz, que c'était des séfarades. Finalement, ils ont accepté que je chante. Et à la fin, j'ai dit au directeur, est-ce qu'il y a des sièges qui sont cassés? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ils m'ont dit, non, il n'y a rien, pardon. Et monsieur Shemama, le journaliste, m'a dit, je vais faire un article dans Le Monde. Le titre de l'article, c'était Enrico Macias réunit les Ashkénazes et les Séfarades en Israël. C'était mon premier engagement.
Spreizich mir mit die Giche drin. Noch a ferder zum Jari. Mit den Teister kling ich mir. Una Lieder Bader Zeit. Breitzifend ist die Tier. Kretschmer gib a Gläsel mir. Noch a Gläsel. Gibt's mir an der Ballet-Boss. Wer mir ferder her, mir stott mit der Jari. Asken ferder darf ich nie.
nicht gekauft, nicht gekauft. Und das ganze Geld als Eulung versäuft. Und verzorre spring ich mir. Und ein Lieder sing ich mir, sing ich mir.
La route de Suez est ouverte. C'est un défilé continuel de blindés et de transports.
Il est très difficile de faire le point des combats sur la rive orientale du canal de Suez. Par contre, sur ce que l'on peut appeler le deuxième front de la bataille, c'est-à-dire sur les hauteurs du Golan, de violents duels d'artillerie se poursuivaient tout à l'heure. Selon un communiqué syrien, les troupes syriennes poursuivent leur progression. Le président Hafez al-Assad a accusé Israël d'être l'agresseur et d'avoir lancé une guerre éclair. Enfin, réunion extraordinaire du cabinet israélien. Cette réunion, immédiatement après une déclaration à la télévision du général Moshe Dayan, la bataille se décidera dans les tout prochains jours dans le désert et elle s'achèvera par une défaite cinglante pour ceux qui se sont lancés dans cette aventure dangereuse, a déclaré le général Dayan. De son côté, Mme Golda Meir a déclaré « Notre victoire ne fait aucun doute, la reprise des combats par les dirigeants arabes est une folie, je suis sûr que chacun acceptera les difficultés et se sentira responsable car nous combattons pour notre survie ».
C'est une archive qui date de 1973, date de la guerre de Kippour, Enrico Macias.
J'y étais.
Voilà, vous avez été chanté en Israël.
Pour les troupes israéliennes, j'avais été aussi déjà pour la guerre des six jours, mais la guerre du Kippour, c'était vraiment très très dur pour tout le monde, pour Israël, pour les troupes, pour le peuple, pour le pays. On était à deux doigts de perdre la guerre, à deux doigts. Mais enfin, finalement, on a survécu.
Vous avez chanté sur le terrain, vous avez...
Partout. Et dans les hôpitaux aussi, surtout pour les blessés. Je me rappelle, Charlie Marouani était avec moi. Et il avait acheté des vivres pour tous les blessés, pour tout le monde. Et on nous avait mis à notre disposition des psychologues, parce que ce qu'on voyait était tellement horrible qu'il fallait pas qu'on réagisse devant eux, ni pleurer, ni rien du tout. On se retenait. Et moi, je me rappelle un blessé qui était au bord de mourir, me demande de chanter une chanson en hébreu. J'ai chanté, puis il est parti après. Je chantais à l'oreille. Et je me sauvais pour pleurer, parce que j'avais pas le droit de pleurer devant eux.
J'ai suivi des chemins au rythme des errances et les vents parlant beau charriaient mes espérances. Mon ami, mon frère, dis-moi comment faire pour nous aimer. est sur terre. J'ai cherché un regard dans la foule sans nom, enfermé dans la brume et fardé de néon. Mais la foule s'en va, mais la foule piétine sans regard pour celui qui recherche ses racines. Mon ami, mon frère, dis-moi comment faire pour nous aimer sur terre. Je suis comme un voilier qu'aucun port ne console. Je suis là de voguer sans encre ni boussole. Où trouver l'anse bleue à la gorge sereine? Où trouver le repos et l'oubli de tant de peine? Mon ami, mon frère, dis-moi comment faire pour nous aimer sur terre. Dans le monde, il y a tant d'amour en souffrance, tant de vies revêtues d'un manteau d'innocence. Qu'un beau jour tu es sûr de la voir arriver, celle qui comprendra que la vie t'a oublié. Mon ami, mon frère, je sais comment faire pour être aimé sur terre.
Voilà, c'est des mauvais souvenirs, mais il y a une force, une foi dans ce peuple qui n'existe pas ailleurs. Ça n'existe pas ailleurs. Ils sont au bord de la catastrophe et ils rebondissent et ils résistent et ils survivent. Et quand on voit tout ce qui se passe, par exemple, en ce moment, le 7 octobre et tout, eh ben, c'est la même chose. Il faut survivre. Parce que c'est horrible ce qui s'est passé le 7 octobre. Je pense que c'est la deuxième fois dans notre histoire, après la Shoah, que s'est passé quelque chose de grave, non seulement pour Israël, mais pour les Juifs du monde entier.
Who in your merry, merry month of May, who by very slow decay,
and who shall I say is calling?
Lorsque vous êtes parti en 73 chanter en Israël, vous étiez présent en même temps que d'autres grands chanteurs. Il y avait notamment Leonard Cohen.
Oui.
Est-ce que vous l'avez rencontré dans...
Ah oui, bien sûr. Oui. Moi, je suis un fan de Leonard Cohen. Et je l'ai rencontré aussi au Canada.
D'accord, à Montréal.
À Montréal, oui. Ouais. Et c'est un artiste exceptionnel, et l'homme aussi. L'homme, parce qu'on fait souvent une différence entre un artiste et l'homme. Moi, je n'aime pas cette différence. Quand un artiste est bon, c'est que l'homme est bon. Mais si l'homme est mauvais et que l'artiste est bon, c'est impossible.
Il y a un roman sorti récemment de Pierre Assouline qui s'appelle L'Annonce.
L'Annonce, oui.
Parce que ce roman raconte d'abord l'histoire de Pierre Assouline, du journaliste Pierre Assouline, qui est parti à 20 ans, en 73, alors qu'il vivait à Paris, volontaire en Israël. Alors, c'était un volontaire civil, mais il est parti là-bas avec d'autres jeunes de son âge. Et ça s'appelle L'Annonce parce que le personnage de son roman, qui s'appelle Raphaël, rencontre une femme dont le métier est d'aller annoncer aux familles des soldats qui sont morts la mort de leur enfant.
Oh là 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 là.
Et
oui. C'est marrant, ça me rappelle, vous savez, pendant la guerre de Kippour, moi, les soldats me donnaient des morceaux de papier avec des adresses et qu'il fallait que je donne des nouvelles aux familles. Évidemment, je n'avais pas à annoncer des morts de quoi que ce soit.
Voilà, ça s'est fait par... Oui.
Mais j'étais le facteur, quoi.
Oui,
une sorte
oui.
de facteur. Mais ça, c'est terrible.
Terrible. C'est une femme qui travaillait pour l'armée. Et Pierre Assouline raconte qu'il fallait garer le camion, qui était un camion, une voiture de l'armée, assez loin dans la rue pour que la famille ne voit pas la voiture arriver, pour qu'elle ne comprenne pas tout de suite ce qui allait lui être dit. Et dans ce très beau roman qui est en deux parties, une première partie se passe en 73, la seconde partie se passe après le 7 octobre 2023. Dans la première partie, il parle de Léonard Cohen et il parle de vous. Vous êtes dans ce roman parce que vous chantez en Israël en 73.
C'est vrai.
Oui.
Mais il est de Constantine, Pierre Assouline?
Non, Pierre Assouline, il est né au Maroc. Il est né à Casablanca.
À Casablanca.
Oui, mais son père était né en Algérie.
Oui, bah alors c'est à Constantine, parce que moi je connaissais des Assouline de Constantine.
Et voilà. Il est arrivé petit en France, à Paris. Il appartenait au CLES, au Comité de liaison des étudiants sionistes socialistes. Et c'est à travers cette association qu'il est parti en 73.
C'est magnifique. Ouais. Moi, j'adore Pierre Assouline.
Oui.
C'est un grand écrivain. Hein.
C'est un grand écrivain.
Et un grand philosophe
oui.
aussi.
Eh bien, vous êtes dans son livre.
Voilà, ça me fait plaisir. Ouais.
20h à Tel Aviv, 19h à Paris. Voici donc le moment incroyable, l'instant impensable qui soulève au Proche-Orient et dans le monde entier une immense espérance. Beaucoup comme vous ont ce soir, au même instant, les yeux tournés vers cet avion aux couleurs de la République arabe d'Égypte, qui pour la première fois depuis l'existence de l'État d'Israël, pour la première fois depuis 30 ans, et malgré 4 guerres, amène sur la terre israélienne le chef de l'État égyptien, le président Sadat, qui va fouler le sol d'Israël, ce qu'il ne pensait sans doute jamais faire.
Je suis venu vers vous pour que, ensemble, nous construisions, que nous édifions une paix juste et durable et d'éviter toute effusion de sang. Comment garantir la paix juste et durable, malgré les longues années de guerre, d'effusion de sang, de haine et d'animosité entre plusieurs générations. Vous voulez vivre avec nous dans cette région du monde et je vous dis en toute franchise que nous vous accueillons parmi nous en toute sécurité.
Voilà, on vient d'entendre un extrait du long discours qu'a fait Anwar El Sadat en 1977 à la Knesset en Israël.
Quel document exceptionnel. Quand j'ai vu le président Sadat qui avait fait la guerre de Kippour et venir après à Jérusalem et en Israël...
En 1977.
En 1977... Je pensais jamais qu'il allait m'inviter, ainsi que d'autres figures de la diaspora, et puis aussi du monde des arts, parce qu'il voulait faire la paix non seulement avec Israël, mais avec les gens de la diaspora représentatifs, quoi. C'était vraiment un moment exceptionnel lorsque Sadat a décidé de faire la paix avec Israël. Moi, je me trouvais dans le bureau de Begin lorsqu'il a eu la réponse. Parce que c'est Begin qui...
C'est Menahem Begin qui l'a invité.
C'est lui qui l'a invité.
Oui.
Et il disait, à tout le monde, jamais il acceptera, jamais. Et lui, il répond, il dit « Oui, je viens à Jérusalem ». C'est un moment biblique, c'est la Bible. Parce que quand j'ai rencontré le président Sadat, il m'a reçu à Ismaïlia, dans sa propriété, en 79. Et il m'a dit « Tu vois, là, c'est le Sinaï. Derrière le Sinaï, qui habite ?» Je sais pas, c'est Israël. Il me dit, toi, tu es comme Moïse, et moi, je suis comme le Pharaon. Et moi, je libère les Israéliens de la guerre, puisque je veux faire la paix avec eux. Et il m'a dit, le message que je veux envoyer à Israël est irréversible. Toi qui vas dans le monde entier, tu peux le dire à ton monde entier.
Abraham a eu deux enfants, Ismaël, Israël. Ils s'aimaient, voilà 5000 ans, d'un amour fraternel. Ils cherchaient du fond de leur âme à servir l'Éternel. Le premier fit naître l'islam, le second Israël. Le grand pardon, le grand pardon, il est écrit depuis longtemps, depuis la nuit des temps. Le grand pardon, dépêchez-vous, dépêchons-nous de le faire entre nous. Attachés par les liens du sang, ils étaient tous unis. Ils rêvaient de voir leurs enfants vivre au même pays. Le grand pardon, le grand pardon, dépêchez-vous, dépêchons-nous de le faire entre nous. Et le temps de tuer l'amour, ils se sont retrouvés face à face au lever du jour, prêts à tout sacrifier. Quand chacun a sa vérité et la même maison, l'avenir peut être sauvé sans larmes ni passion. Le grand pardon, il est écrit depuis longtemps, depuis la nuit des temps. Le grand pardon, dépêchez-vous, dépêchons-nous de le faire entre nous. Il faudra que revienne un jour au silence des armes les deux frères unis pour toujours par l'amour d'Abraham.
Vous avez composé une chanson qui s'appelle Le Grand Pardon.
Ah oui, mais ça, c'était en 73.
Oui, mais dans Le Grand Pardon, il y a le même message de paix, de réconciliation,
oui,
que dans les mots de Sadat.
C'est la première fois qu'un juif envoyait un message de paix pour réconcilier les juifs et les arabes.
Oui.
Et d'ailleurs, le refrain en disait long sur mes intentions. C'était que le grand pardon, il est écrit depuis longtemps. Dépêchez-vous, dépêchons-nous de le faire entre nous. Abraham a eu deux enfants, Ismaël, Israël. Voilà. C'est la première fois que un artiste juif, je me vante pas, mais je l'ai fait. Prenez la réconciliation entre les Juifs et les Arabes.
Et quand vous chantiez cette chanson dans un concert, ça, quelles étaient les réactions?
Alors au début, les réactions étaient même difficiles en Israël aussi. Et aussi en Égypte. Puis alors petit à petit, ils se sont bien accordés et ça y est, ça marche.
À la mort de Sadat en 1981.
Ah, ouais, ça a été pénible. Ça a été pénible.
Ça a été très.
Je vais vous
très
raconter comment j'ai écrit cette chanson. La veille du drame, de la disparition de Sadat, j'étais dans ma maison à Saint-Tropez. Et j'ai toujours une guitare avec moi parce que j'étais tout seul. Tout le monde venait de partir, la famille, tout ça, de rentrer. C'était la fin des vacances. Et je devais rentrer le lendemain. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, je suis rentré le lendemain. Et j'ai pris ma guitare, Et j'ai composé la musique qui allait devenir par la suite la chanson de nécrologie de Sadat, Le berger vient de tomber. Quand j'ai écrit la musique, la veille, j'ai dit non, je la sortirai jamais cette chanson. J'avais pris des notes sur un papier, et puis c'était la musique seulement, je parle que de la musique, hein. Pas, il n'y avait pas de texte encore. Et je ferme ma guitare et je laisse le papier dans ma guitare, parce que c'est une chanson, la musique est trop triste. Le lendemain, je prends l'avion pour rentrer à Paris, et en arrivant à l'aéroport, je vois une multitude de photographes qui s'avancent vers moi. J'ai cru qu'il était arrivé quelque chose de grave dans ma famille. J'étais à milieu, je savais pas, hein. Et on me dit, à brûle pour point comme ça, qu'est-ce que vous pensez de la mort du président Sadat? Je dis quoi, il est mort, pourquoi? Et là, on m'explique qu'il a été tué par sa propre armée et tout ça. Ah là là, au moment où on me raconte ça, moi je suis bouleversé et j'ai la musique que j'avais écrite la veille qui me trotte dans la tête sans arrêt. Elle me tournait dans ma tête. Je suis arrivé, j'appelle Jacques de Marny et je lui dis, écoute, viens à la maison, il faut absolument qu'on écrive un truc avec cette musique sur sa date. Et lui, il a trouvé un berger vient de tomber. Voilà.
Pour tous les martyrs de la paix, qui sont morts pour nous tous, qui sont morts pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations futures. Président Kennedy, Martin Luther King, le président Sadat, et maintenant, à la mémoire d'Yitzhak Rabin. Un berger vient de tomber sous les armes, le cœur d'une humanité est en larmes, et le monde bouleversé réalise d'un seul coup que la terre engendre quelquefois des fous. Tous ceux qui, devant son corps, font la fête, oublient que la mort n'est pas une défaite, qu'il a mis tout son courage à servir la liberté, qu'il nous reste l'héritage qu'il a laissé. C'est pour ça que je garde l'espoir. Il n'est pas venu par hasard. Le chemin qu'il a tracé, nous l'avons tous en mémoire. Les martyrs forcent les portes de l'histoire. Un berger vient de tomber sous les armes. Le cœur de l'humanité est en larmes. La violence a de nouveau mis du sang sur son drapeau et lâché les loups au milieu des agneaux. Comme nous l'avons appris des prophètes, qui sèment le vent récoltent la tempête. Alors j'affirme aujourd'hui à ceux qui l'ont sacrifié que déjà dans le ciel on les a jugés. Ils disaient, puisqu'il faut mourir, laissez-moi le droit de choisir. Et de Washington à Rome, où l'on a eu peur aussi, on sait bien qu'il a fait le don de sa vie. Un berger vient de tomber sous les armes. le cœur de l'humanité est en larmes. Les idées qu'il défendait et cette main qu'il tendait serviront un jour ou l'autre à faire la paix.
Le 15 mars 2025, vous avez donné un concert à Paris.
Ah, c'était au Dôme.
J'y étais. Et alors que les relations entre les Juifs et les musulmans sont très tendues en ce moment, vous avez chanté cette chanson et je me suis dit, comment la salle va réagir? Mais on a tous chanté et la chanson, tout le monde était content que vous la chantiez.
Il y a aussi la folle espérance.
Oui.
Dans ces moments difficiles, les boules puantes et tout ça, continuer à chanter tout ça, c'est... Moi, ça marchait très très bien, la première partie, il y a eu l'entracte. Et mon petit-fils Jérémy est venu me voir et m'a dit, tu sais, papy, on a envoyé des salles puantes dans la salle.
Des boules puantes, oui.
Et puis moi, je savais pas. Et je suis allé vers le sonorisateur pour lui demander quelque chose avant la deuxième partie. Et c'est vrai, j'ai senti une sale odeur. Et c'est là que j'ai compris qu'on avait jeté des boules puantes dans la salle. Quand je suis revenu sur scène, j'ai voulu rassurer le public. Je me suis un peu énervé.
Pas trop, non, vous êtes
pas
resté.
Trop, mais
ah non, non. Vous avez été ferme.
Oui, j'ai été très ferme. J'ai dit c'est mauvais signe parce que moi, on peut me faire ce qu'on veut pour moi, mais pas pour le public. Le public, c'est interdit. On n'a pas le droit de faire ça. Parce que ça m'a un peu rappelé le Bataclan et tout ça. On envoie des bulles puantes, c'est un peu mauvais signe. Ça peut être aussi des armes de violence. C'est pour ça que je voudrais rassurer les gens, leur dire que la sécurité est primordiale, pas pour moi, mais pour le public. Voilà, ça que j'ai dit.
C'est la première fois que ça a arrivé ?
Ah oui. C'est pas la première fois qu'on m'embête. On a essayé de me boycotter. On m'a boycotté en tournée depuis le 7 octobre. Il y a des collectifs de pro-palestiniens qui viennent manifester devant les salles de spectacle ou alors qui demandent de l'annulation de mon spectacle aux mairies et tout. Sur 100 concerts, il y a eu 2 concerts annulés. C'est tout. Tout le reste, c'est du boycott.
De l'intimidation.
Insignifiant.
Oui.
Insignifiant parce que finalement, il y a plus de gens qui viennent au spectacle que de manifestants. Voilà. Je ne me plierai jamais aux messagers de la haine. Jamais.
Chanson des rues, feuilles au vent, lettres perdues. Les mots voyagent en faisant le plein d'images. Un tour de boussole, de ville au hasard. 3 tournesols ou le grand large. Bouteille en mer, cerf-volant, grains de poussière. Les notes de nage vont au champ, suivent les plages. Mon Dieu, quelle chance de bercer un jour juste une enfance d'un peu. J'irai toujours poussé par cette mélodie qui se transmet, je crois, depuis la nuit des temps. Ça n'est jamais la même, elle fait souvent sa vie, mais elle revient chargée d'histoire et de présent. Mon Dieu, quelle chance de pouvoir un jour bercer une enfance avec un peu d'amour. Chanson des rues, feuilles au vent, lettres perdues. Les mots voyagent en faisant le plein d'images. Un avion décolle, 2 trains rentrent en gare. 3 rossignols chantent ce soir. Je suis chez moi, toujours au-dessus des frontières. Pas de visa pour ceux qui voyagent en refrain. Si l'on entend
au-delà des mers. C'est que tes mots, mes notes vont main dans la main. Mon Dieu, quelle chance de pouvoir un jour bercer une enfance avec un peu d'amour. Chanson des rues, feuilles au vent, lettres perdues, les mots voyagent en faisant le plein d'images. Un avion décolle, deux trains rentrent en gare, trois rossignols chantent ce soir. Bouteille en mer, cerf-volant, grains de poussière, les notes nagent, vont au chant, suivent les plages. Mon Dieu, quelle chance de bercer un jour juste une enfance d'un peu d'amour. Mon Dieu, quelle chance de pouvoir un jour bercer une enfance avec un peu d'amour.
France Musique, Enrico Macias, Enfant de tout pays, Virginie Bloch l'aînée.
Là, nous venons de parler, Enrico Macias, de votre du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Votre carrière internationale, elle s'est faite aussi dès 66 à Moscou, à Londres, aux États-Unis. Comment ça s'est passé à Moscou, par exemple ?
À Moscou, c'était la première fois aussi que j'allais dans un grand pays. Et c'est aussi la première fois que je lâche ma guitare dans mon spectacle. Et que je deviens un artiste comme les autres, avec ma guitare bien sûr toujours, mais que je peux faire des gestes. C'était un peu difficile pour moi,
oui.
Et j'ai commencé à expérimenter cette révolution dans ma façon de chanter. Et c'était en Union soviétique. Alors en Union soviétique, le public. Jamais rencontré un public aussi formidable que là-bas. Parce que, d'habitude, quand on a du succès avec des chansons, on les bisse. Et ben là-bas, on les trisse. On les chante trois fois.
Et lâcher votre guitare, ça voulait dire esquisser des pas de danse, tendre le micro
au spectateur. Ah oui, c'est là que j'ai commencé. Chante, oui. C'est là que j'ai commencé à découvrir que j'avais une autre dimension dans mon spectacle.
Dans notre premier entretien, vous avez parlé de Charles Aznavour et vous avez dit toute l'amitié que vous aviez pour lui. Mais je crois avoir lu que Aznavour, il ne faisait pas chanter ses spectateurs comme vous et il n'aimait pas trop ça.
C'est-à-dire que je vais raconter une anecdote. Lors de mon spectacle à l'Olympia, il se trouve que le hasard a fait que Charles Aznavour me succédait. Mais il y avait des gens qui venaient me voir de province ou de l'étranger, mais qui ne savaient pas que j'avais arrêté le spectacle. Ils croyaient que j'étais toujours à l'Olympia. Et il se trouve qu'ils sont tombés sur le spectacle d'Aznavour. Mais c'était pas un rejet parce que les gens qui aiment Macias sont obligés d'aimer aussi Charles Aznavour. Alors, ils sont venus quand même au spectacle. Et comme c'est des habitués de mes spectacles, dans certaines chansons rythmées, ils tapaient dans les mains. Et lui, il voulait pas. Il dit, c'est pas Enrico Macias, c'est Charles Aznavour. Mais c'est marrant quand, parce oui. que quand on se rencontrait, on parlait de ça ensemble et on riait. Il avait beaucoup d'humour, beaucoup.
Bonsoir mon frère, bonsoir mon frère. On pourrait peut-être chanter ensemble, mon frère.
Pourvu que ce soit pas trop difficile.
Non, ça sera pas difficile. En tout cas, je veux dire, on va faire une chose qu'on n'a jamais fait, ni toi, ni moi.
Oui. Quoi, par exemple ?
Par exemple, moi, je vais te chanter une chanson dans une langue que tu connais peut-être, que tu vas peut-être reconnaître au passage.
Oui.
C'est du yiddish.
Ah, le yiddish ?
Oui.
Enfin, je connais. Tu
connais ?
Le yiddish, je connais pas, moi. Je sais pas parler le yiddish. Mais à force d'aller à Cannes et à Deauville, je connais l'accent.
Bon, alors, tu pourras juger le mien.
Oui, d'accord.
Ok.
C'est que difficile. Toi, tu n'as jamais chanté en arménien, je
crois. Non, c'est vrai, ma famille, mais pas moi.
Eh bien, moi, je sais chanter en arménien.
Moi, je peux juger l'accent.
Oui, et je peux te dire que pour moi, l'arménien, hein,
oui.
Eh bien, c'est ni du yiddish, ni de l'hébreu. Hein.
C'est quoi ?
Eh bien, c'est de l'arménien.
C'est pas de la tarte, quoi.
C'est pas de la tarte, voilà. Deux mesures pour rien, s'il
vous plaît. Ah non, pas pour un arménien, ni pour un juif.
C'est vrai, ça.
Bah,
Un garnir of mangu kain pat zvere tem ke yer gnayin arev asemte lusir asemte inchinch asem arushik yare arev asemte Lucina semete in cincia sem anushik yarin anushik yarin.
Un accent étonnant. Je connais des Arméniens qui n'ont pas cet accent, je l'avoue franchement. Et il y a un petit détail, vers la fin, j'ai l'impression que ton Arménien a quand même fait, je sais pas, il a passé quelques vacances en Algérie.
Mais j'ai des frères arméniens pieds noirs.
Mais il y a en tout cas une langue dans laquelle nous pouvons chanter tous les deux.
Oui.
À part le français, bien sûr.
Ça, c'est officiel.
Oui.
Mais on va chanter en hébreu, non ?
On va chanter en hébreu une chanson qui s'appelle Avalagida.
Oui, mais il y a un problème là.
Lequel ?
C'est que quand je vais en Israël, on me dit que c'est une chanson de folklore israélien.
C'est vrai.
Et quand j'étais en Arménie dernièrement, enfin il y a quelques années, à Erevan, on m'a dit Avalagida, c'est une chanson du folklore arménien.
Ça doit être vrai pour toi, ça.
Ça doit être vrai, mais moi je suis.
C'est vrai pour nous deux, finalement. C'est,
oui, mais on va la chanter alors.
En arménien, il n'y a pas de paroles.
Bon, mais comme il y a des paroles en hébreu, on va se contenter de ça.
On va chanter en hébreu.
Allez,
d'accord.
On chante en hébreu alors.
Nagila, ava, nagila, ava, nagila, veris mecha.
Nagila, nagila,
nagila, nagila, veris mecha.
Ava,
les chanteurs vous ont dit vous avoir copié sur cette façon de vous comporter avec les spectateurs. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que vous avez incité d'autres chanteurs à être autant en relation avec les spectateurs ?
Ça, je ne sais pas, mais moi, je crois qu'un spectacle sans la communion qu'il y a avec le public, c'est plus Enrico Macias. Vous éliminez tout de suite.
Les voyages à l'étranger, Enrico Macias, vous les avez aussi faits dans le cadre de la fonction d'ambassadeur de la paix auprès de l'ONU.
Oui, c'est pas ce que j'ai fait de meilleur, parce que quand je vois ce que fait l'ONU en ce moment, j'ai un peu honte. Mais enfin bon, moi j'ai fait
c'était
ça,
un autre temps.
J'ai fait
dans les années 90.
Oui, dans les années 90, j'avais un secrétaire général qui était exceptionnel. Du niveau de Sadat et de Shimon Peres, il s'appelait Kofi Annan, et grâce à lui, j'ai sillonné toute l'Afrique pour trouver une thérapie, une trithérapie, pour les femmes enceintes du sida, parce que elles donnaient le sida à leur bébé.
Elles le transmettaient, oui, à ce moment.
Alors, évidemment, je me suis battu avec les maisons de médicaments qui ne voulaient pas envoyer gratuitement, parce que, vous savez, les Africains sont pauvres. Et rien que la trithérapie a réussi à soigner beaucoup de gens. Et j'ai combattu contre les maisons de médicaments pour qu'ils envoient gratuitement la trithérapie. Et c'est ma tournée en Afrique qui a eu ce bon résultat. Pour ça, Kofi Annan m'adorait aussi, parce que j'étais très efficace pour ça.
Merci beaucoup, Enrico Macias.
C'est moi qui vous remercie.
Je fais un rêve, c'est le plus ancien. C'était hier et ce sera demain. Trois espérances rient des différences, des mélanges de mots, de musique et de peau. Si l'on pouvait un jour faire parler ces oliviers qui s'accrochent à leur terre, fiers d'être là plusieurs fois centenaires, je sais qu'ils nous diraient comment gagner la paix. Si j'ai le mal d'un pays aujourd'hui, c'est de celui dont nous parle le livre, de cette époque où il faisait bon vivre. Que sont devenus mes Andalousies? Que sont devenus nos Andalousies? Je fais un rêve, c'est le plus ancien. C'était hier et ce sera demain. Trois espérances jouent des apparences et chantent au diapason, guitare, luth et violon. Trois arcs-en-ciel, fruits d'un même soleil, pour colorer la pluie aux couleurs de la vie. Si j'ai le mal d'un pays aujourd'hui, c'est de celui où d'un coup d'éventail, les femmes chassées, les soucis, la grisaille. Que sont devenues mes Andalousies? Que sont devenus nos Andalousies?
C'était Enrico Macias, L'enfant de tout pays, une émission de Virginie Bloch-Lenné réalisée par Pierre Villers. Mixage Manon Houssin, prise de son Éric Boisset.
Je fais un rêve, c'est le plus ancien. C'était hier et ce sera demain. Trois espérances enchaînées par la chance de partager sourire, joie, chagrins et plaisirs. Trois arcs-en-ciel sortis sous le soleil d'un horizon barré de sol rouge et brûlé. Si j'ai le mal d'un pays aujourd'hui, c'est de ce temps, de cet Eldorado, que je retrouve au son du flamenco. Que sont devenus mes Andalousies? Que sont devenus nos Andalousies?
Vous pouvez retrouver les titres des chansons sur le site de l'émission. La semaine prochaine, quatrième volet, l'Oriental. France Musique.